Il y a deux.
Le 20 novembre, c'était le 26e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. À l'atelier Canopée du Cher, un collectif d'associations a réalisé une exposition. 14 classes l'ont découverte et ont participé à un atelier radio.
Vous allez entendre deux classes s'exprimer sur certains des droits de la Convention. En référence à l'article 32, le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation, le travail dur, la drogue, la violence sexuelle.
Droit de l'enfant
et vivre ensemble,
valeurs de la République.
Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Droit de l'enfant 18. Aujourd'hui, Julia et moi accueillons la classe de CM1-CM2 de l'école des Verdins de Saint-Doulchard.
Oui, Ali. Nous sommes ravis de rencontrer Mariana et Jalil, élèves en CM1.
Bonjour à tous.
Bonjour, je suis vraiment très content d'être parmi vous.
Mais aussi Nassim et Nancy, qui sont en CM2.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
À l'occasion du 26e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, il nous est apparu indispensable d'évoquer la condition des enfants dans le monde, plus particulièrement face au travail. Savez-vous que 168 millions d'enfants travaillent dans le monde ? Le thème de notre chronique aujourd'hui concerne donc l'exploitation économique des enfants. L'article 32 de la Convention internationale, des droits de l'enfant nous dit d'ailleurs que l'enfant a le droit d'être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation, son développement.
Les invités que vous allez maintenant écouter ont lu, analysé plusieurs articles du journal Mon Quotidien. Ils vont vous faire part de leurs découvertes ô combien surprenantes concernant le travail des enfants. Écoutez bien et vous comprendrez vite combien nous avons de la chance de vivre en France.
Merci Julie et Ali de nous laisser la parole. Effectivement, pour mieux comprendre ce qu'endurent des millions d'enfants dans le monde, nous avons recherché les derniers articles parus sur le sujet dans Mon Quotidien, que nous vous invitons bien évidemment à consulter. Et c'est ainsi que nous avons découvert Denis, jeune Philippin de 13 ans, qui doit travailler sous l'eau comme 18 000 autres enfants. Oui, vous avez bien entendu, sous l'eau. Ce numéro du 17 octobre 2015 nous raconte que ce garçon doit plonger et rester une à deux heures sous l'eau pour rapporter de la terre et des cailloux et trouver de l'or. Bien sûr, il a un compresseur pour respirer. Mais quand il fuit, Denis sent des gaz, a des vertiges. Il a l'impression que ses tympans vont exploser. Pour séparer l'or du sable, il utilise du mercure, un métal très toxique qui attaque le cerveau. C'est particulièrement dangereux pour les enfants qui sont en train de grandir.
Et que dire de Joseph ? Il a 12 ans et habite au Burkina Faso. Chaque jour, il commence sa journée à 5 heures pour la finir à minuit. Il travaille pieds nus, sans casque, dans une mine. Il descend attaché à une simple corde à plus de 30 mètres sous terre. L'air est chaud, la poussière intense, il peine à respirer. Ah, il pense à son ami Mamadou, mort enseveli. Et pourtant, toute la journée, il travaille, il est accroupi pour détacher les pierres du mur. Lorsqu'il remonte, très tard dans la nuit, la peau maculée de boue, personne ne l'attend ou ne lui donne à manger.
Comme c'est horrible, tout ce que vous nous racontez. Et ce ne sont que deux exemples, car plus de 168 millions d'enfants travaillent dans le monde. Mais alors, que fait-on pour les aider ? Sont-ils condamnés ?
Non. Aujourd'hui, des personnes se battent, comme Fimen Noun, qui vient de recevoir le prix des enfants du monde, numéro du 3 novembre. Cette Cambodgienne a réussi à construire des écoles pour les enfants pauvres, travaillant dans les décharges de Phnom Penh. En rassemblant des dons, elle a aidé des centaines d'entre eux. Sa mission est de leur fournir de l'eau potable, de la nourriture, un toit et des cours. Et ce cas n'est pas isolé.
Vous pouvez nous présenter un autre défenseur des enfants ?
Oui, Julia. L'Indien Kailas Satyarthi a passé toute sa vie à lutter contre l'exploitation des enfants dans le monde. Enfants esclaves, enfants prostitués, enfants volés. Il a sauvé 80 000 enfants et d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2014. Il raconte « Tout a commencé lors de mon premier jour d'école, à 6 ans. j'ai vu un enfant du même âge que moi devant l'école en train de cirer des chaussures avec son père. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée parler au père qui m'a dit qu'ils étaient juste nés pour travailler.
C'est bouleversant ce que vous nous racontez.
Aujourd'hui, son association travaille dans plus de 100 pays. Ses équipes prennent des risques, accompagnées de policiers. Elles mènent des opérations commando pour récupérer des enfants enlevés à leur famille ou forcés à travailler.
Ce que je vous propose, c'est que l'on termine cette chronique par la lecture d'un joli poème rempli d'espoir. C'est Nassim qui va nous le lire.
Merci, Julia. J'ai découvert ce magnifique recueil il y a quelques jours et comme cette semaine, elle est celle des droits de l'enfant. J'ai décidé de vous le présenter. Il s'agit de « Dis-moi un poème qui espère » de Jean-Marie Henri et Alain Serre, paru aux éditions Rue du Monde. Voici celui qui m'a donné la chair de poule. « La grande humanité » de Nazim Hikmet. La grande humanité voyage sur le pont d'un navire, dans les trains en troisième classe, sur les routes à pied, la grande humanité. La grande humanité va au travail à 8 ans. Elle se marie à 20, meurt à 40. La grande humanité. Le pain suffit à tout sauf à la grande humanité. Le riz aussi, le pain aussi, le sucre aussi, le livre aussi. Cela suffit à tout sauf à la grande humanité. Il n'y a pas d'ombre sur la terre de la grande humanité. Pas de lanterne dans ses rues, pas de vitre à ses fenêtres. Mais elle a son espoir, la grande humanité. On ne peut vivre sans espoir.
Waouh, Nassim, ce poème me laisse sans voix. Il est tellement grave, mais tellement plein d'espoir.
Oui, Ali, je trouvais qu'il allait très bien avec notre chronique. Ce recueil aborde également d'autres termes comme la violence, la famine, le fait de ne pas avoir un toit. Je vous le recommande car ce livre n'est pas qu'un livre avec des poésies qui se suivent et qui pourraient nous ennuyer. Non. Chaque poème est accompagné de photographies frappantes et de magnifiques dessins. Et puis, Noël approche. Un peu plus d'humanité dans les chaussons.
C'est une excellente idée, Nassim. Et chacun pourrait réfléchir à sa condition. Bien, notre chronique touche à sa fin. Nous devons rendre l'antenne. En tous les cas, je remercie nos invités de l'École des Verdins. Je conclurai simplement en disant que la lutte contre le travail des enfants commence à porter ses fruits. 47 millions d'enfants en moins travaillent. Mais il ne faut rien relâcher. Ces enfants ont besoin de nous. Tous. L'exploitation des enfants dans le monde est loin d'être terminée. Nous avons encore tant de chemin à parcourir pour les aider à trouver leur vraie et seule place d'enfant, l'école. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain pour une nouvelle chronique concernant le travail des enfants. En connaissant nos droits, nous grandirons mieux.
Liberté, égalité, fraternité, laïcité.
Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Droits de l'Enfant 18, la radio qui donne la parole aux moins de 12 ans. Aujourd'hui, Salimata, Ryan et moi sommes heureux d'accueillir la classe de CM1, CM2 de l'École des Verdins de Saint-Doulchard.
Oui, Léa, nous sommes ravis de rencontrer Romain, élève en CM1.
Bonjour tout le monde.
Ainsi que Ethan et Alicia qui sont en CM2.
Bonjour à tous.
Bonjour, nous sommes très heureux d'être là.
Ryan, nos auditeurs sont impatients. Que allons-nous débattre aujourd'hui avec nos invités?
Vous n'êtes pas sans savoir, Salimata, que cette semaine nous célébrons le 26e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, nous avons choisi d'évoquer aujourd'hui le travail des enfants. Le thème de nos débats concerne donc l'exploitation économique des enfants. L'article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant nous dit que l'enfant a le droit d'être protégé contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement.
Que savons-nous de la situation des enfants aujourd'hui dans le monde? Sont-ils vraiment protégés contre tout travail? La parole à notre premier invité, Romain.
Merci Salimata. Commençons par des chiffres alarmants. Saviez-vous que un enfant sur 10, de 5 à 17 ans, soit 168 millions, travaille dans le monde? alors qu'il ne devrait pas. Un enfant sur deux exerce un emploi dangereux dans les mines, les usines, qui le met en contact avec des produits chimiques, des outils dangereux.
Incroyable, Romain, inimaginable. Pour quelle raison, Ethan, les enfants travaillent-ils ?
Ils travaillent pour aider leurs parents, car l'argent qu'ils rapportent permet à la famille très pauvre de manger et de payer un loyer. Ils aident aussi à rembourser une dette. Les parents qui ont emprunté de l'argent à quelqu'un prêtent leur enfant à cette personne. L'enfant travaille gratuitement, c'est une sorte d'esclavage. Les enfants travaillent aussi pour survivre car ils n'ont plus de famille. Ils sont orphelins ou leurs parents, très malades, ne peuvent plus travailler.
Pouvez-vous nous expliquer, Alicia, quels sont les dangers ?
Certains travaux sont dangereux car ils perturbent la croissance. Les choses lourdes à transporter sur le dos peuvent empêcher les enfants de grandir normalement. Les enfants ne sont pas assez mûrs pour avoir conscience des risques et donc se protéger correctement avec des lunettes, des masques, des gants. Certaines activités comme le trafic, la prostitution, obligent les enfants à côtoyer des individus dangereux et les exposent à des risques physiques ou psychologiques.
Et les conséquences sur les enfants de ce travail, Romain, quelles sont-elles ?
Les enfants qui travaillent n'ont pas le temps d'aller à l'école. Ils ne peuvent pas avoir un avenir meilleur et un jour avoir un bon salaire. Malheureusement, un enfant qui n'est pas allé à l'école deviendra un adulte pauvre et ses enfants seront obligés de travailler pour l'aider.
C'est dramatique ce que vous nous dites. Alors, comment lutter efficacement contre le travail des enfants ?
Pour lutter efficacement contre le travail des enfants, il faut comprendre pourquoi certains enfants sont obligés de travailler. La principale cause est la pauvreté. Et la conséquence est que beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. 72 millions dans le monde en âge d'aller à l'école primaire n'y vont pas. Vous rendez-vous compte ?
Je me rends surtout compte que nous, petits Français, avons beaucoup de chance.
Grâce à des associations, des personnes, le nombre d'enfants qui travaillent diminue un peu. Par exemple, vous connaissez tous l'UNICEF ? Elle défend le droit des enfants partout dans le monde. Eh bien, elle sensibilise les familles pour éviter d'avoir à envoyer les enfants au travail et propose des alternatives comme des aides financières. Car un enfant qui va à l'école est un enfant qui sort de la pauvreté. Chaque pays doit s'engager à rendre une scolarisation obligatoire et à offrir de bonnes écoles gratuites à ses enfants. C'est pour cette raison que la Journée mondiale contre le travail des enfants, qui a lieu chaque année le 12 juin, réfléchit à comment offrir une école totalement gratuite pour un maximum d'enfants.
Alicia, ne pensez-vous pas que les entreprises ont aussi leur part de responsabilité ?
Si, bien sûr. Dans certains pays comme en Chine, en Inde, au Bangladesh, les enfants travaillent dans les entreprises. Pour lutter, il faut expliquer aux chefs des entreprises qui les embauchent. Pourquoi il ne faut pas le faire ? C'est une des actions menées par l'IPEC, le programme international pour l'abolition du travail des enfants, qui agit dans 88 pays.
Et nous, les consommateurs, ne pouvons-nous pas prendre certaines mesures ?
Une mesure très simple. Éviter d'acheter des produits fabriqués par les enfants. Comment ? Quelques indices peuvent nous mettre sur la voie. Le produit est bon marché. L'étiquette indique « fabriqué au Népal ».
Bien, notre débat touche à sa fin. Nous devons rendre l'antenne à l'occasion du 26e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et après vous avoir écouté, Alicia, Romain et Ethan, nous comprenons que l'exploitation des enfants dans le monde est encore loin d'être terminée, même si la lutte contre le travail des enfants commence à porter ses fruits. Car 47 millions d'enfants en moins travaillent. Il est urgent que tous, gouvernements, chefs d'entreprise, associations, agissions pour aider nos enfants à avoir une vie meilleure.
Nous avons encore tant de chemin à parcourir pour les aider à trouver leur vraie et seule place d'enfant, l'école. Je remercie nos invités d'aujourd'hui de l'école des Verdins. Je vous laisse réfléchir à ce débat. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle émission concernant les droits de l'enfant. En connaissant nos droits, nous grandirons mieux.
Liberté, égalité, fraternité, laïcité.
Bonjour, vous êtes sur Radio Droits de l'Enfant 18. Nous sommes une classe de 27e 2. Notre école s'appelle l'école des Verdins. Et nous venons de Saint-Doulchard, c'est une commune qui jouxte Bourges. Et nous sommes ravis d'être en votre compagnie aujourd'hui. Nous vous proposons un débat qui va lier travail des enfants et école, puis une partie historique pour mieux comprendre l'évolution du travail des enfants en France.
Merci Tony. Je vais vous présenter les élèves qui vont participer au débat d'aujourd'hui. Océane, Alia, Martin et Camélia qui va m'aider à organiser ce débat.
Merci Swan. Je vais vous lire l'article de la Convention internationale des droits de l'enfant sur lequel nous allons être amenés à débattre. Il s'agit de l'article 32 qui dit « Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. »
Merci Camélia. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cela signifie ? L'enfant doit être protégé contre l'exploitation économique.
Quand on parle d'enfant, on pense à l'école. Or, il faut savoir que beaucoup d'enfants de par le monde ne vont pas à l'école.
Pourquoi ces enfants ne vont pas à l'école ? Et quel est le lien avec l'exploitation économique ? Qui veut prendre la parole ? Alia ?
Oui, merci Camélia. En effet, les causes pour lesquelles les enfants ne vont pas à l'école sont multiples. La principale est la pauvreté des familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école et sont donc obligées de les faire travailler. L'école n'est pas gratuite et les parents ne peuvent pas la payer. L'école est très éloignée de l'endroit où vivent les enfants. La famille est nomade et se déplace sans cesse. Les parents ne pensent pas utile d'envoyer les enfants à l'école, surtout les filles.
Dans certains pays qui sont en conflit lors de guerres civiles, les enfants ne vont plus à l'école et sont même enrôlés et exploités comme enfants soldats.
Il ne faut pas oublier non plus les enfants des rues, les orphelins dont les parents sont morts ou ceux qui sont abandonnés et qui se retrouvent dans les rues. Ils sont victimes de l'exploitation des plus grands et de la prostitution.
Merci, l'idée des droits de l'enfant est une idée récente. Et pendant des siècles, les enfants ont été traités comme des ressources pour aider les adultes quand ils vieillissent. C'est bien cela.
Oui, Swan, la survie de la plupart des sociétés reposait traditionnellement sur l'agriculture. Comme il fallait constamment remplacer les ouvriers agricoles âgés, les enfants travaillaient aux côtés des parents dès qu'ils étaient assez forts pour des tâches comme les semailles ou la traite. Dans certains pays, les enfants continuent à jouer un rôle agricole essentiel.
Les enfants travaillent-ils uniquement dans l'agriculture ?
Non, les enfants peuvent également travailler dans les mines ou chez un patron comme les enfants domestiques ou chez eux comme tous ces enfants qui tissent des tapis à longueur de journée.
Est-ce que dans les pays industrialisés, en Europe, en Amérique du Nord, il y a des enfants qui travaillent en usine ? Océane ?
Actuellement, le travail est très réglementé et les enfants des pays d'Europe vont à l'école. Mais en France, par exemple, lorsqu'il y a eu l'industrialisation au XIXe siècle, les enfants sont devenus une vraie ressource industrielle. En effet, ils pouvaient accomplir des tâches qui ne requéraient pas la force physique d'un adulte. Leur petite taille leur permettait d'accéder à des espaces inaccessibles à des adultes, au fond des mines par exemple, ou dans des conduits de cheminée. Ils effectuaient des tâches ingrates et rapportaient un peu d'argent à leurs parents.
Pourquoi les pays industrialisés ont-ils peu à peu rendu l'école obligatoire ? Alia ?
Les enfants envoyés au travail très jeunes ne savaient ni lire ni écrire. Ils n'avaient aucune connaissance scientifique. Or, l'industrie avait besoin d'une main-d'œuvre instruite. Les pays occidentaux ont peu à peu limité le travail des enfants pour les envoyer à l'école.
Tout cela s'est fait progressivement, n'est-ce pas, Martin ?
Oui, en France, en 1841, des mesures sont prises pour diminuer le travail des enfants et leur permettre d'aller à l'école. Jules Ferry rend l'école gratuite en 1881, laïque et obligatoire en 1882. Mais tous ces changements purent avoir lieu sous un régime politique particulier, puisque c'était sous la Troisième République.
Nous arrivons à la fin de ce débat. Si les enfants travaillent toujours de par le monde, nous avons compris que les causes en sont principalement économiques, puisque les enfants doivent travailler pour aider leur famille.
Oui, Swan, mais il y a également des causes politiques. Les gouvernements sont les premiers à pouvoir impulser des décisions et faire que les choses changent. Mais il faut une réelle volonté. Or, les enfants sont une main-d'œuvre qui ne peut pas s'organiser en syndicat et avoir un réel poids pour faire des précisions sur les patrons ou des gouvernements.
Bon, merci à tous. Il va maintenant être temps de clore ce débat. Merci à nos invités pour ce lien si étroit entre travail et école. À bientôt sur Radio Droits de l'Enfant 18. C'était l'école de Verdun. Merci et au revoir.
Au revoir.
Liberté, égalité, fraternité, laïcité.
Bonjour, vous êtes sur Radio Droits de l'Enfant 18. Nous venons de Sainte-Boulchard, nous sommes à l'école des Verdins et nous sommes 27 en classe de CM2. Nous sommes heureux de vous proposer un débat qui va mettre en lumière les pays où les enfants travaillent, ce qu'ils font comme travail ainsi que leurs conditions de vie et les conséquences de ce travail.
Merci Méline, voici les élèves qui vont participer au débat d'aujourd'hui. Naomi, Tom, Cassandra et Simon, qui est avec moi pour organiser ce débat. Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci Lola, nous avons travaillé sur l'article de la Convention internationale des droits de l'enfant numéro 32, que je vous lis. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
Merci Simon. Qui veut nous préciser ce que l'on entend par travail ? Naomi ?
Alors on dit qu'un enfant travaille quand les tâches qu'il effectue lui prennent tant de temps ou l'épuisent tant qu'il ne peut pas aller à l'école, l'empêche de jouer, de s'épanouir, nuise à sa croissance et l'exclut, met sa santé et son développement physique en danger.
Est-il vrai que certains enfants travaillent à partir de 4 ans, Tom ?
Oui, c'est vrai. Certains enfants, dès 4 ans, sont dans des ateliers clandestins, des mines cachées ou parfois même dans des entreprises familiales.
L'Organisation internationale du travail, créée en 1919, s'occupe des droits des travailleurs dans le monde entier. Elle définit des règles, âge légal, horaire, conditions de travail. Malgré ces conventions, environ 150 millions d'enfants se font voler leur enfance et travaillent. Pourquoi ?
Les familles n'ont souvent pas d'autre choix que de faire travailler leurs enfants pour survivre.
Merci Cassandra. Qui veut prendre la parole pour nous dire dans quel pays ces enfants travaillent ? Naomi ?
Oui, alors on peut dire que globalement tous les continents sont touchés. Même si les pays industrialisés d'Europe et l'Amérique du Nord font un peu exception.
Pour les pays en voie de développement, l'Organisation internationale du travail tolère le travail à partir de 14 ans, mais incite les gouvernements à élever cette limite d'âge. En effet, garder un écolier plus longtemps à l'école diminue les risques d'entrée précoce dans le monde du travail.
Si vous le permettez, je vais compléter ce que vient de dire Tom. Il faut savoir que dans le monde, l'âge légal pour travailler n'est pas le même partout. En France, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais à 15 ans, on peut aller à l'école en alternance dans le cadre de l'apprentissage. En Haïti, on peut embaucher légalement un enfant de 12 ans comme domestique. Au Bangladesh, la loi permet à un enfant de 12 ans de travailler dans un magasin ou une plantation de thé.
Pour travailler si jeune, cela veut dire que les familles sont pauvres et n'ont pas d'autre choix que de faire travailler les enfants. Qui veut nous dire quels sont les métiers de ces enfants, dans quelles conditions ils exercent ce travail et s'ils sont payés ?
Les enfants peuvent être agriculteurs, domestiques, chiffonniers, vendeurs d'eau, apprentis tailleurs, réparateurs de pneus, fabricants de vêtements ou de ballons, tisserands, coupeurs de canne à sucre, chercheurs d'or, mineurs, brodeurs, mécaniciens et couturières, concasseurs de pierre. Il y a même des enfants qui fabriquent des jouets, des chaussures et des briques.
Ces enfants travaillent souvent dans des ateliers clandestins en dehors des lois et échappent ainsi à tout contrôle. Ils travaillent à récolter le café au Costa Rica, le cacao en Afrique, des oranges au Brésil, la vanille à Madagascar, le latex en Malaisie et des fruits et légumes partout dans le monde.
En résumé, sur 10 enfants travailleurs, 7 sont dans l'agriculture, la chasse, la pêche, 2 dans le commerce, la restauration, l'hôtellerie, les transports, et 1 dans l'industrie, mine, bâtiment, usine.
La majorité des enfants agriculteurs travaillent sur les terres de leurs parents. Beaucoup en sont fiers, car ils sont utiles à leur famille. Hélas, la pauvreté pousse une grande partie de ces jeunes à travailler au lieu d'aller à l'école ou de s'amuser. Ils ne sont quasiment jamais payés quand ils travaillent avec leurs parents. Sinon, c'est toujours moins que les adultes, même s'ils remplissent des tâches identiques.
Ce travail en agriculture est-il dangereux ?
Oui, bien sûr, car les enfants font le même travail que les adultes et utilisent les mêmes outils et engins. Mais ceux-ci ne sont pas adaptés à leur taille. Machettes, faux, bêches, pinces, fossiles sont trop gros, trop lourdes et trop grandes pour les mains d'un enfant qui s'épuise vite et risque de se blesser.
Les conditions sont-elles meilleures pour les enfants producteurs ?
Non, elles ne sont pas meilleures, car l'utilisation de produits chimiques dans les industries de la chaussure et du textile intoxique l'organisme fragile des enfants. Dans l'industrie du tapis, les enfants s'abîment les yeux et les poumons à respirer de la poussière de laine.
Qui veut parler des enfants domestiques ? Cela paraît moins pénible comme travail. Est-ce le cas ?
Non, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi. On trouve des enfants domestiques partout dans le monde. Le service domestique est l'un des plus vieux du monde. Certaines familles, très pauvres, vendent ou confient leurs enfants, souvent une fille, à une famille riche pour rembourser une dette ou lui offrir un avenir meilleur.
Et donc, les jeunes domestiques se chargent de toutes les corvées, aller chercher l'eau et le bois, s'occuper du jardin potager, faire la vaisselle, la lessive, le ménage, garder les enfants. Ils n'ont souvent pas de salaire ou alors il est dérisoire en comparaison des efforts fournis. Car en plus des corvées, souvent plus de 10 heures par jour, ils sont privés de leur famille, d'école de loisirs et de repos. Ils sont logés chez leur patron mais sont à leur merci 24 heures sur 24.
L'une des pires formes de travail enfantin, c'est la prostitution. Qu'est-ce que cela signifie ?
Certains enfants ont fui un univers violent ou une trop grande misère. D'autres ont été abandonnés ou vendus par leurs parents. Un enfant prostitué accepte d'avoir des relations sexuelles pour obtenir un salaire. Il peut s'agir d'argent, de nourriture, de drogue ou de vêtements. Si l'enfant ne veut pas, il est battu, torturé, privé de sommeil ou de nourriture, ou même drogué pour le rendre plus docile.
On peut ajouter que toutes ces formes de travail ont des répercussions physiques et psychologiques graves sur la santé et l'espérance de vie des petits travailleurs. Le manque d'hygiène, la malnutrition, l'épuisement, l'impossibilité de se faire soigner les fragilisent.
Quand on entend cela, on a froid dans le dos. Et maintenant, qui nous parle des enfants soldats ? Tom ?
Alors, dans les pays en guerre, toutes sortes d'armes à feu circulent. Elles sont bon marché et simples à utiliser même par un enfant de 7 ans. Quand une armée manque de combattants, elle oblige des gamins à devenir soldats. Ils sont trop petits pour refuser, mais assez grands pour porter un fusil ou une mitraillette et pour s'en servir.
L'enfant soldat ne va pas seulement au combat. Il fait aussi des corvées, nettoyer, éplucher, laver, guetter, surveiller. Il est envoyé en éclaireur et risque sa vie pour éviter les embuscades. Faire quitter une guerre à des enfants est compliqué et donne peu de résultats. Les ONG interviennent à la fin des conflits pour les démobiliser et les aider à reprendre une vie normale.
Nous arrivons à la fin de ce débat passionnant.
Quels sont les objectifs pour l'avenir ?
Beaucoup de pays autorisent les enfants au-dessus d'un certain âge à travailler à temps partiel, avant ou après l'école. Ils gagnent leur propre argent sans effectuer de lourdes tâches. Cette solution est préférable pour les familles pauvres à l'interdiction du travail des enfants.
L'objectif est que tous les enfants aient un enseignement primaire gratuit, public et obligatoire, que les filles puissent accéder à l'éducation, lutter contre la pauvreté, favoriser la création d'un travail décent pour les adultes.
Je reprends la parole car nous arrivons à la fin de cette émission. Ce débat est complexe. Pour conclure, nous retiendrons que le salaire gagné par les enfants est essentiel pour leur famille. Travailler trop jeune peut condamner l'enfant à une vie de pauvreté. Mais les lois pour limiter ce phénomène appauvrissant encore les familles, la meilleure solution serait de mettre fin au travail des enfants en les libérant par étapes tout en aidant leurs parents. Merci à tous nos invités, merci de nous avoir suivis. C'était l'École des Verdins, au revoir à tous.
Au revoir. Au revoir.
En connaissant nos droits, nous grandirons mieux. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous au prochain épisode.